Section 8. Je partis le 9 de Paris pour aller en Franche-Comté, voir quelques parents de mon père. Un d'eux me servit sans s'en douter à commettre l'escroquerie à l'aide de faux. Je rencontrai quelqu'un que j'avais connu à Lyon et qui malheureusement me connaissait sous mon véritable nom. L'argent m'embarrassait. Je priais de me le faire changer contre de l'or. Il me dit que l'or était assez rare à Dijon, mais il s'offrit de me faire avoir une valeur à vue sur Paris. J'acceptai. Cet effet était souscrit par la maison veuve de Revon de Dijon, sur Delamarre Martin Didier de Paris. Je conçus rapidement un nouveau plan d'escroquerie. Ce fut de venir faire graver à Paris des vignettes semblables à celles de la maison de Revon, de contrefaire ce billet, de me faire payer sur un faux et de revenir après négocier le véritable en Bourgogne, avant que les diverses maisons eussent pu communiquer. Je comptais en négocier en même temps beaucoup d'autres. Je n'y réussis pas mal. Pour cet effet, voulant n'être pas arrêté dans mon premier essai chez M. Delamarre, Martin Didier, je priais la maison de Revon de ne pas manquer de donner avis de leur traité. Elle oublia cependant. Ce fut ma perte. J'arrive à Paris. Toute la police était à ma recherche. Et grâce à Avril, François, Germain et Bâton, elle commençait à avoir d'assez bonnes indications. Peu m'importait, je me serais placé à la bouche d'un canon. Immédiatement après mon arrivée, je fus chez un graveur commander des vignettes. Je me donnais pour associé de la maison de Revon. Au bout de 2 jours, j'en eus une dizaine. J'en avais commandé 500. Je devais revenir prendre le reste le soir. Ce qui suit m'en empêcha. Aussitôt après avoir mes vignettes, je débutai par contrefaire les traites à vue que j'avais à toucher chez Delamarre Martin Didier. Je me présente au caissier. Il regarde le livre d'échéance. Pas d'avis. Oh, si je m'en étais douté. En effet, avec l'avis, j'étais payé sans difficulté, sans observation. Pas d'avis, on dut se livrer à des recherches, des suppositions, ou confronter plusieurs lettres de change de M. de Revon. Je n'avais certes pas compté là-dessus. Je m'esquivais aussitôt que je m'aperçus des investigations. Il était 3h30 lorsque je quittais M. Delamarre Martin Didier, et à 4h, j'étais en diligence avec un passeport sous le nom de Jacob Lévy. J'ignore encore si le passeport que j'avais laissé à Dijon dans mon sac de nuit lorsque j'en partis précipitamment, a été réellement égaré ou si son absence fut une ruse pour me retenir, à défaut de tout autre motif pour éclaircir les soupçons que l'on avait conçus contre moi. Jusqu'à ce moment-là, on ne me l'avait jamais demandé. Et ce qui le prouve, c'est que j'avais fait mon premier voyage de Paris à Besançon et de Besançon à Paris. Je n'avais aucune espèce de papier et pourtant, j'étais déjà signalé sur toutes les routes. Bâton avait donné mon signalement exact. Avril avait annoncé que si j'étais pas à Paris, je devais être allé en Franche-Comté. Et cela ne m'empêchait pas de circuler tranquillement, sans crainte et sans souci. En repassant à Dijon, j'appris que M. de Revon avait déjà avis de l'escroquerie tentée chez M. Delamarre Martin Didier. Je quittai précipitamment cette ville et fus à Beaune. Là, je présentai à M. P. le véritable effet sur lequel j'avais placé un endossement au nom de Jacob Lévy, sous lequel je voyageais. Je priai M. P. de vouloir bien envoyer cet effet à l'encaissement, lui annonçant que je repasserais à Beaune dans 5 ou 6 jours pour en reprendre les fonds. M. P., comme je l'espérais, et cela m'avait déjà réussi. Après avoir considéré la signature de M. de Revon, me dit qu'il était inutile d'attendre jusque-là et qu'il allait me compter les fonds. « Oh, comme vous voudrez, » répondis-je, sans paraître empressé. « Et il paraît, » ajoutai-je, « que vous connaissez bien cette maison. » « Oh, » reprit-il, « vous en auriez pour 20 000 francs. Je vous les escompterais à la minute. » Je notais cela dans ma tête. Je quittai Beaune immédiatement et me dirigeai sur Genève, par Lyon, en répandant des faux tout le long de ma route. En reprenant le chemin de Paris, je laissai à une partie de mes fonds et je le gardai avec moi comme 1 500 francs. J'avais promis à M. P. que je devais revenir à Beaune. Je ne lui tins que trop parole. J'avais en portefeuille un effet de 4 000 francs que je prétendais lui négocier. J'étais arrivé à Châlons par le bateau à vapeur. Je retins ma place pour Beaune. Nous y arrivâmes à 1 heure de la nuit. Le conducteur m'avait oublié et me conduisait jusqu'à Dijon sans un voyageur qui, m'ayant entendu dire en partant que je m'arrêtais à Beaune, me rendit le service de me réveiller. Ce fut une fatalité, car il est certain que si je me fusse trouvé à Dijon, je me serais gardé de revenir sur mes pas. On m'attendait à Beaune, on avait compté sur la parole que j'avais donnée. Tout avait tourné contre moi. En négociant à M. P. mon mandat sur Delamarre, Martin Didier, souscrit par M. Drevon, je devais penser qu'il l'enverrait directement à Paris pour le faire encaisser. J'avais compté sur ce délai. À l'heure fixe, la nouvelle du faux ne devait leur parvenir que le jour même de mon retour. J'avais encore le temps de terminer mon affaire chez eux et de partir, mais qu'était-il arrivé? Monsieur P., en dépit des usages ordinaires du commerce, avait envoyé à messieurs Drevon le propre effet dont ils étaient créanciers, et courrier par courrier, on lui avait répondu que cet effet, tout réel qu'il était, avait servi au premier endosseur à en fabriquer ou faire fabriquer des faux, qu'il le priait donc de s'assurer de la personne du nommé Jacob Lévy pour arriver par son canal jusqu'au premier endosseur. On m'attendait donc, pour ainsi dire, au déboté. Je n'avais garde de m'échapper, puisque, si on avait eu la patience d'attendre un peu, je me présentais chez M. P. avec mon faux. Il n'y aurait pas eu moyen de me dédire. Le matin, on savait déjà à Beaune que j'étais arrivé. Je déjeunais à l'hôtel et fus au café. Je prenais ma demi-tasse avec une personne de la ville lorsque l'individu vint s'asseoir à notre table. Je vis qu'il me fixait avec beaucoup d'attention. Oh, je me doutais de quelque chose. D'ailleurs, il y a de ces airs gendarmes qui n'échappent pas au coup d'œil de l'industriel. C'était en effet le lieutenant de gendarmerie de Beaune. Il sortit, rentra 5 minutes après, et vint me dire à l'oreille qu'il avait à me parler. Je le suivis. Étant dehors, il me déclina ses qualités et me demanda si je ne me nommais pas Jacob Lévy. À cette question, ce fut pour moi comme si j'eusse entendu « La sonnaire est condamnée à la peine de mort. » Tout l'avenir se déroula devant mes yeux. Mais il ne m'étonna ni ne m'effraya. Il y avait longtemps que je savais que cela finirait ainsi. Cependant, un dernier instinct de conservation, puis un sentiment d'amour-propre dont on ne jouit qu'en soi-même, m'engagèrent à me défendre et à essayer de me tirer de ce faux pas. Ce fut la dernière fois. Depuis, loin de m'en garantir, je me suis précipité moi-même au-devant de tous les coups qu'on a voulu me porter. M. P. ne m'accusait pas. Il reconnaissait que, loin de chercher à être payé de suite, j'avais demandé que l'on envoyât les faits à encaissement, et que c'était lui qui m'avait offert l'argent. C'était là un beau moyen de défense. Comment penser en effet qu'un individu, porteur d'infos et le sachant, irait demander que l'on envoyât cet effet à l'encaissement? C'était absurde, je le fis observer. Le lieutenant de gendarmerie ne savait trop qu'en pendir. Il me pria de l'accompagner chez le juge d'instruction. Arrivé là, j'expliquai l'affaire. Le juge d'instruction avait l'air assez fortement prévenu contre moi. Je m'attachai à faire disparaître cette prévention et lui représentai un moyen de défense si péremptoire relativement à la proposition que j'avais faite à M. P., ce dont celui-ci était convenu. Je lui fis si bien entrevoir que s'il y avait des faux commis dans cette affaire, j'en étais la première victime, et qui ne pouvait venir que du fait du premier endosseur, avec lequel je n'avais eu nullement affaire puisque j'étais le troisième. Et cela était si clairement expliqué que j'allais l'emporter et être mis en liberté, lorsque survint une autre catastrophe. Je jouais de malheur ce jour-là. Je n'en suis pas fâché aujourd'hui. Un négociant de la ville qui avait habité Lyon et qui m'avait connu, m'ayant vu passer en société avec le lieutenant de police de gendarmerie, ayant appris que c'était là l'individu nommé Jacob Lévy, s'écria que j'étais un escroc, qu'il me connaissait et qu'il ne pouvait pas dire au juste mon nom, mais qu'il était sûr que je n'avais jamais porté celui de Lévy, qu'au surplus je n'étais pas israélite. On l'engagea à faire de suite sa déposition. Il arriva, comme j'étais en train de signer la mienne, en qualité de témoin. Il fit appeler le lieutenant, qui revint après quelques instants, parla à part au juge d'instruction. Changement de scène. On apprit qu'une personne de la ville, qui me connaissait bien, affirmait que je ne me nommais pas Jacob Lévy. Je me récriais, je demandais avec insistance qu'on fît paraître l'imposteur devant moi. Alors on finit par où l'on aurait dû commencer, ce que je craignais par-dessus tout. On me demanda mon passeport. J'affirmai que, pressé de quitter Dijon, j'avais laissé à l'hôtel du Parc, dans mon sac de nuit. C'était vrai. On ne m'écouta pas. On m'engagea seulement à écrire de suite à Dijon en me disant qu'aussitôt mon passeport arrivé, je serais relâché. Monsieur le procureur du roi ajouta même qu'il allait écrire de son côté pour hâter l'expédition de cette pièce. Je ne m'en inquiétais plus, mon parti était déjà pris. Je connaissais trop bien les usages, mais je ne m'en cassais pas plus la tête qu'aujourd'hui, où je n'ai peut-être pas 24 heures à vivre. Depuis mon entrée à la prison de Beaune, je n'ai pas perdu un instant ma tranquillité. Au bout de quelques jours que j'avais passé sans nouvelles, j'appris qu'au lieu d'avoir trouvé mon passeport à Dijon, monsieur le procureur du roi y avait ramassé des informations qui étaient loin d'être en ma faveur et de m'apporter la liberté. Quelques personnes qui logeaient à l'hôtel du Parc prétendirent m'avoir vu en conférence avec un individu qui venait d'être arrêté, porteur de plusieurs faux. Le fait est que je ne connaissais pas cet individu, que je ne lui avais jamais adressé la parole, que je ne savais même pas de qui on voulait me parler. Il n'en fallut pas davantage pour me retenir. Et au bout de quelque temps, tout se découvrit à Paris. Un soir, j'entendis des gendarmes, leur caserne donnait sur la prison, qui parlait d'un homme qu'ils avaient à transférer le lendemain. Je prêtai l'oreille, j'entendis les noms de Gaillard, dit Lassner, dit Jacob Lévy, etc. « Bon, me dis-je, voilà l'affaire. » Effectivement, le lendemain matin, je partis pour... Monsieur le procureur du roi fut la première personne qui se présenta à moi à mon arrivée à la prison. Il y venait sans mandat, attiré simplement par la curiosité et par ma réputation naissante. Je le lui fis sentir avec un peu d'ironie. Pour s'en venger, il obtint, sur la demande qu'il en adressa à Paris, une gratification pour moi de 15 livres de fer au pied, le jour de mon départ. Quatre lignes censurées. Il y a des gens sur lesquels on ne peut pas se venger parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Moi, je suis de ce nombre. Je défie qui que ce soit de se venger de moi. Il y a des procédés qui me révoltent sans me faire souffrir. D'ailleurs, je ne suis jamais si heureux que quand on me fournit une preuve que je ne me suis pas trompé dans le mépris que j'ai voué à la plupart des hommes. Trois lignes censurées. Outre les fers que j'avais aux pieds, il était enjoint aux gendarmes sur la route de me mettre les poucettes aux mains pendant la nuit dans les prisons de passage. Mais je dois rendre justice aux gendarmes et dire que, hors un seul, tous ont reculé devant cet ordre qu'ils n'ont pas hésité de qualifier du nom de barbare. Il est vrai que je n'étais encore que prévenu, que j'avais été confronté avec personne, qu'on pouvait fort bien avoir été induit en erreur. La justice ne se trompe-t-elle pas, quelquefois? Il y avait de présomption alors contre moi que celle résultant de corps d'écriture. J'avais tout nié, et non pas dans l'intention de fuir le sort qui m'attendait, mais pour ne pas prolonger inutilement en province des instructions qui n'avançaient à rien. Il me tardait d'être devant mes juges naturels, il me tardait d'être à Paris. Ce n'est qu'à Paris que je voulais mourir. Je ne le cache pas, c'eût été un grand désagréant pour moi d'avoir affaire à un bourreau de province. Cher Paris, chère barrière Saint-Jacques, enfin j'arrivais à Paris. La première personne qui se présenta à moi fut M. Allard. J'ai eu trop de rapports avec lui pour ne pas dire quelques mots sur cet homme qui, chargé par ses fonctions de poursuivre et de saisir le crime, a su si bien allier avec moi ses devoirs avec la bonté qui lui est naturelle. C'est donc ici une œuvre de reconnaissance et de conscience. De reconnaissance, car je lui dois beaucoup. De conscience, parce que je sais que c'est, je dis la vérité. Il faut savoir ce qu'était la police avant M. Allard, et savoir ce qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir lui rendre justice. Il faut apprécier ce qu'elle était, non seulement par son entourage hideux et repoussant, mais encore par les préjugés qui s'élevaient contre elle. Et que l'on ne s'y trompe pas, il y a bien plus de grandeur d'âme, de force de caractère à lutter contre le préjugé pour faire le bien, qu'il y en a souvent de faire une action héroïque. Dans le premier cas, on a tant de récompenses que dans la conviction intime d'avoir accompli un devoir, car l'opinion publique est toujours lente à rendre justice. Dans le second, on espère le prix immédiat d'un sacrifice par l'admiration des hommes. Il faut, dis-je, apprécier tout cela pour concevoir le dévouement qu'il fallait à un honnête homme, à un homme loyal et délicat comme lui, pour ne pas être dégoûté par de si funestes antécédents. Il faut reconnaître les contrariétés de toutes sortes dont on cherche à abreuver celui qui s'occupe de réformes et d'épuration dans une administration quelconque, pour pouvoir se rendre compte des services que M. Allard a rendus. Être droit et honnête par lui-même, bon, ce n'était rien, c'était sa nature. Mais il fallait porter une main ferme et hardie sur les verrues qui végétaient à l'épiderme de la police. Il fallait régénérer l'esprit, en construire un corps qui puisse se présenter à la face de tous. Et il l'a fait par sa persévérance. Il a banni de ses bureaux toutes les ruses infernales qui faisaient qu'on se demandait jadis de bonne foi quelles étaient les plus viles, les plus méprisables des malfaiteurs ou de ceux qui étaient chargés de les arrêter. Et il faut en savoir gré à celui qui, placé à la tête de cette partie de l'administration publique, a su apprécier M. Allard et lui accorder la confiance qu'il mérite et dont il avait besoin pour obtenir d'aussi importants résultats et rétablir une réforme aussi complète dans les mœurs de la police. Certes, d'après les fonctions qu'il remplit, M. Allard avait grand intérêt à obtenir de moi des aveux, des révélations. Il savait aussi parfaitement que Ce n'est qu'en excitant les complices les uns contre les autres que l'on arrive à des découvertes importantes avec le plus de facilité. Il ne m'a pas dit un seul mensonge, pas avancé un seul fait qui ne m'ait été prouvé plus tard. Jamais il n'a cherché à m'induire en erreur pour me faire revenir à ses fins. Il a toujours été, vis-à-vis de moi, franc, droit, simple et loyal. Il savait, il est vrai, que je n'étais pas un homme facile à abuser. Ou sinon, ne ferais-je pas un grand mérite si je ne connaissais ses habitudes constantes de bonne foi, ses rapports avec beaucoup de personnes dont il aurait pu mieux tirer parti. Je l'ai beaucoup connu dans les prisons, et quoique là, on ne soit pas généralement disposé à lui vouloir du bien, je n'ai jamais entendu lui adresser le plus léger reproche à cet égard. Jamais de fausseté, jamais de mensonge de la part du chef de service de sûreté, à qui il serait souvent si utile. Comprenez-vous cela, messieurs? C'est qu'il a sorti ce qu'il y avait de vil à s'exposer à rougir en face de ceux qui doivent rougir devant lui. Et je vous dis qu'avec cette droiture, cette loyauté, chacun de ces jours est marqué par un nouveau service rendu à la société, que jamais avant lui, moins de crimes, de délits, il était resté inconnu et impuni. Laissez-moi lui témoigner ma reconnaissance à cet homme qui depuis longtemps ne vient jamais à moi sans que j'éprouve un plaisir, qui ne me quitte jamais sans que j'éprouve un regret. Et pourtant, il a rempli son devoir contre moi, tout son devoir. Combien en est-il qui devrait apprendre de lui à le remplir de cette manière? Il y aurait alors moins de haine, moins de vengeance dans le cœur de bien des malheureux. Et maintenant encore, qui ramène la gaieté sur mon front, le sourire sur mes lèvres, hein? C'est que je suis sensible au mépris, aux injustices. Je le suis plus encore au bienfait. Je n'ai oublié aucun de ceux qui me sont arrivés d'une manière désintéressée. J'ajouterai, en passant, que depuis que je suis à Paris, je n'ai eu absolument qu'à me louer de la conduite qu'ont eu à mon égard tous les magistrats devant lesquels j'ai eu à paraître, tous les fonctionnaires, administrateurs et employés de prison. Je citerai, entre autres, monsieur le directeur de X, dont la bonté, l'aimable conversation n'a pas été un des moindres charmes de ma captivité. J'ai connu peu d'hommes aussi disposés à faire du bien, aussi éloignés de faire du mal à ceux qui sont sous ses ordres et sa surveillance. Quoique je n'ai à reprocher aucun acte d'injustice, d'arbitraire ou de dureté à monsieur le directeur de X, je ne puis m'empêcher de me plaindre qu'il ne soit permis de me tutoyer. Une semblable familiarité est inconvenante vis-à-vis de tout le monde. Et je devais, plus qu'un autre, en être à l'abri par ma position, mon éducation et toute ma manière d'être. Ce ne sont pas de semblables procédés qui démontrent la supériorité et établissent le mieux la ligne qui sépare les rangs et les positions. C'est un conseil que je me permets de donner ici en passant à monsieur le directeur de X. À mon arrivée à la préfecture, monsieur Allard chercha à me convaincre que je ne pouvais échapper aux charges qui s'élevaient contre moi. Mais il n'était pas difficile à persuader. Je ne désirais au contraire que les accumuler, craignant d'échapper au sort que je m'étais réservé. Je convins donc que j'étais l'auteur de la tentative de meurtre de la rue Montorgueil. Il me demanda quels étaient mes complices, car longtemps on a cru que nous étions trois. Je lui répondis que les scélérats ne se vendaient pas entre eux, à moins qu'ils ne fussent trahis les premiers par leurs complices. Il n'insista pas sur le moment à cet égard, mais il me demanda si je n'étais pour rien dans l'assassinat de Chardon. Je lui répondis que non. « Pourtant, me dit-il, François, qui, comme vous le savez, a été arrêté, nous a déclaré que vous vous étiez vanté à lui d'être l'un des auteurs de ce crime. » Il me répéta alors les propres paroles que j'avais dites à François. Je le pouvais douter, cependant, me méfiant moi-même de la position où je me trouvais, surpris, pour ainsi dire, à l'improviste. Au moment où je venais de faire une longue route, je ne pouvais pas être certain de posséder toute ma présence d'esprit. Et craignant de m'avancer plus que je ne devais, je rompis l'entretien en disant à M. Allard: Oh, soyez certain que si ce que vous m'avez dit est vrai, je vous livrerai François pieds et poings liés. Je ne peux pas vous en dire davantage aujourd'hui. Je n'ai qu'une prière à vous faire, c'est de me débarrasser de tout cet attirail. Je montrai mes fers. Le lendemain, en effet, j'en fus délivré par ses soins. J'avais réfléchi dans la nuit, et je voyais à n'en pouvoir douter que François m'avait vendu. Aussi, dès que M. Allard se présenta à moi, je lui déclarai que c'était lui et lui seul qui avait été mon complice dans la rue Montorgueil. Quelque temps après, je fus transféré à la force où j'avais demandé à aller. Mais je n'étais pas satisfait du tour que prenait cette affaire. Je n'y voyais tout au plus qu'une condamnation à perpétuité, et je n'avais jamais compté là-dessus. Je me perdais encore dans la foule. Je ne voulais cependant pas déclarer l'assassinat de Chardon, craignant, sans le vouloir, de compromettre Avril. Je sais bien qu'il avait offert de me livrer, qu'elle était mise en liberté pour cela, mais je considérais cette demande plutôt comme une étourderie, une plaisanterie qu'il avait voulu faire à la police, que comme une réalité. Quelques renseignements que j'obtins changeaient mes idées. J'appris qu'Avril, qui avait eu connaissance à Bicêtre, où il était alors de la tentative de la rue Montorgueil, avait été abusé à ce sujet, en ce sens qu'il pensait que nous avions réussi. Furieux de ce que je ne lui avais pas donné de mes nouvelles, il se décida à me faire arrêter. Il l'annonça même assez imprudemment à quelques détenus. Je me crus quitte envers lui. Cela servait trop bien mes projets. Je pouvais suivre mon plan dans toute son étendue, c'est-à-dire me suicider avec le retentissement que j'avais désiré, non par amour propre, mais par vengeance. 5 lignes censurées. Cependant, j'avais de justes motifs pour laisser ignorer aux autres détenus quelle était ma conduite. Bien que je n'eusse rien eu à craindre d'eux, si j'avais voulu tout dire, je ne le voulais pas, parce qu'une déclaration franche devait me faire perdre beaucoup de moyens de conviction sur lesquels je comptais pour me faire condamner, moi et mes complices. Je ne me trompais pas, car ce qui eut lieu plus tard m'en enlevait de décisif, en mettant au fait de tout quelques personnes qui, sans cela, l'eussent ignoré jusqu'au jour des débats, et qui, appelées là, inopinément, n'eussent pu moins faire que de dire la vérité. Cependant, François sentait bien que seul je pouvais le perdre. Il ne demandait qu'à se débarrasser de moi, non par lui-même. Il était au secret au 3e étage, tandis que j'étais sur la cour avec d'autres détenus. D'ailleurs, si nous étions ensemble, je ne l'aurais jamais redouté. Il essayait donc, par de sourdes manœuvres, de me faire un mauvais parti, lorsque le hasard le servit à souhait. J'avais, comme on le sait, dénoncé Avril en demandant, dans l'intérêt même de la vérité, qu'il ne fût pas amené à la force. On le laissa à la conciergerie. Un jour, étant dans l'instruction avec d'autres prévenus de la force, il fit circuler des bruits qui étaient loin de m'être avantageux dans l'esprit de ceux à qui je ne voulais pas révéler le fond de cette affaire. Je voulais, s'il était possible, dissimuler jusqu'à la fin pour m'y enfermer mes complices et moi-même. Car, il faut le dire, je craignais ce qui est arrivé, que quelques personnes me vinssent à penser, ignorant la portée de mes vers, que j'étais un fou qui cherchait à se perdre en déclarant un crime qu'il n'avait pas commis, ou un homme qui voulait perdre à tout prix 2 autres hommes qui avait fait des déclarations contre lui. Combien, en effet, qui ont cru que je me faisais plus coupable que je n'étais et que je n'avais pas participé à l'assassinat de Chardon. Quelque temps auparavant, des amis de François avaient décidé à nommer Bellard. Il a été exécuté, à m'assassiner. On m'en donna avis. Et je répondis comme Guise, il n'oserait. Et effectivement, il n'osa pas. Nous couchions, Bellard et moi, dans la même chambre. J'affectais de me tenir constamment près de lui et de le fixer. Il baissa les yeux et se tint tranquille. Mais un jour, où je fus moi-même à l'instruction, François complota si bien du haut de sa croisée, il persuada tellement les autres prévenus qu'il n'avait rien dit contre moi, que je vendais, etc., qu'il fut convenu entre eux qu'à mon arrivée, tout le monde tomberait sur moi et qu'ainsi, il serait débarrassé de moi. Lorsque je revins de l'instruction, je trouvai toute la cour en fermentation. Or, les meneurs, amis de François, qui, comme les meneurs de toutes les affaires, se tenaient prudemment à l'écart. On avait excité contre moi tout ce qu'il y avait de plus stupide. Car c'est le propre de ces caractères-là de prendre feu pour ou contre au moindre mot, sans savoir pourquoi. Cependant, j'ose le croire, nul n'eût osé me frapper en face. Je faisais trop bonne contenance, quoique sans aucune arme offensive ni défensive. Mais il y a quelque chose dans le regard de l'homme de cœur qui pétrifie le lâche. On profita du moment où je parlais à François, qui, comme je l'ai dit, était confiné au troisième, pour me porter un coup sur la tête par derrière. Celui qui me frappa était le plus lâche et le plus idiot de tous. Une fois renversé, tout le monde se précipita sur moi. Effrayés eux-mêmes, ils m'abandonnèrent spontanément. Je fus jusqu'au guichet, en chancelant un peu, il est vrai, mais sans avoir perdu mon sang-froid. On me conduisit à l'infirmerie, et un quart d'heure après, j'étais pansé et je dormais d'un profond sommeil. Le lendemain, je fus le premier à rire de ce qui m'était arrivé. Je fis dire à mes bons camarades qu'ils étaient des enfants, que ce n'était pas ainsi qu'on s'y prenait pour tuer un homme, qu'il était inutile de se mettre sans contraint, du moins que ce n'était pas mon habitude. Enfin, ce ne fut pour moi qu'une manière à présenter. Je refusai de porter plainte contre qui que ce fût et fis annuler l'instruction qui avait été commencée à ce sujet. Si j'en ai reparlé à l'audience, ce n'était que pour prouver l'intérêt que François avait à se défaire de moi, ce qui prouvait la crainte qu'il avait de mes dépositions et par conséquent sa culpabilité. Le reste de ma prévention se passe à l'infirmerie de la force, sans soins et sans soucis, une vie de philosophe. Enfin, j'arrivai à la conciergerie pour y attendre mon jugement. Là, je reçus une lettre de M. Reffet de Lusignan, mon ancien professeur, qui m'offrait le secours des talents de ses amis. On sait que je n'avais pas voulu faire de choix. Monsieur le président des Assises m'avait désigné un défenseur. Il était venu me voir, je l'avais accepté avec plaisir. Je ne pouvais plus, sans manquer aux plus simples convenances, lui retirer ma confiance, c'eût été un affront. Monsieur Reffet étant venu me voir avec son ami, je lui fis ses observations en leur disant « Comme la charge de ma défense n'est pas très agréable, et qu'elle n'offre aucune compensation. Si mon défenseur désire s'en débarrasser, je verrai, je lui parlerai. » J'ajoutai même, j'en doute où je me suis bien trompé, car à sa place je ne le ferai pas. Le lendemain, je parlai à M. Brochamp, mon défenseur, de l'offre qu'on était venu me faire. Et je lui dis, oh, j'ai toute confiance en vous. D'ailleurs, vous devez penser que dans ma position, ça m'est parfaitement inutile. Mais comme ma défense n'est absolument qu'une charge sans honneur, si vous désirez vous en débarrasser, voici une bonne occasion. » Monsieur Brochamp me répondit: « Oh, je serais fâché qu'aucun sentiment de convenance vous empêchât de confier votre défense à qui bon vous semblerait. Mais si vous me la retirez que comme étant une charge, je m'en acquitterai avec plaisir. » Je m'y étais attendu parce que, je l'ai dit, j'eusse agi ainsi à sa place. Il n'y eut donc rien de changé. J'ai insisté sur cette circonstance lorsqu'un journal a donné à entendre que M. Brochamp s'était chargé de ma défense, pour ainsi dire malgré moi, ce qui est faux. Car, pour dire la vérité, le hasard ne pouvait mieux me servir. Ce même journal a prétendu que j'avais dit à ce sujet que les avocats s'arrangent ensemble, m'en lavent les mains. Quelle imposture! Tous ces pourparlers n'ont eu lieu qu'en présence de l'un ou de l'autre avocat, et je suis trop ami des convenances pour m'être servi d'une semblable façon de parler, tant en leur absence qu'en leur présence. J'appris bientôt que Maître Briquet avait cédé la défense de François à Maître Lapu. Maître Lapu est mon ancien condisciple. Nous avons étudié ensemble à Aix-l'Ix, du temps de M. Réfet de Busignan. 11 lignes censurées. Et pourtant, je lui pardonne de bon cœur. Mais ce que je puis lui pardonner, c'est de m'avoir soumis à la seule torture que je pouvais essuyer pendant les débats. Je pense que je ne suis pas le seul à lui garder rancune à cet égard. Je veux dire que ces longs débats ont été pour moi une véritable fatigue, quoique j'y ai assisté en personne désintéressée, ni plus ni moins que j'y suis été défenseur ou avocat général. Le dernier jour, pourtant, j'étais réellement abattu, et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pourtant que le physique qui souffrait. Mettez-vous à la place d'un homme qui a la pipe à la bouche toute la journée et qui s'en voit sevrer si longtemps. Je veux dire à cela le peu de nourriture prise à la hâte, la tension d'esprit et surtout, au moment décisif, l'incertitude de la réussite de ce que j'avais entrepris, incertitude vague pourtant, dénuée de fondement. J'avais trop bien étudié la figure des jurés et piller leurs moindres sensations pour ne pas deviner le verdict. À l'instant, j'avais hésité sur le sort de François, malgré la surprise que je lui avais ménagée de la présence de bâton, à laquelle il était loin de s'attendre, mais bientôt je fus fixé. Au moment où la sentence fut prononcée, ma vengeance s'éteignit. Il ne resta plus en moi qu'un sentiment d'amour-propre. Non de cet amour-propre qui cherche à triompher devant témoin, mais de cet amour-propre concentré que j'ai eu toute ma vie, et par lequel j'éprouve tant de plaisir à me voir arriver au résultat que je me suis proposé. J'étudie alors, je contemple ma force et je jouis en moi-même. C'est mon plus grand vice. Bon, je ne l'avouerai pas si je n'avais pas promis de tout dire. Je crains que les métaphysiciens et faiseurs de livres n'aient raison lorsqu'ils disent « Il y a une voix secrète dans le bruit de la vie. Je ne l'ai point entendue. Je l'ai niée, principalement à cause des conséquences que les causeurs affectent d'en tirer. Mais voilà que depuis avant-hier, je m'endors moins dans le vin. Je m'éveille plus promptement. Les mots que j'ai dits dans le bavardage de la journée, je me les répète la nuit, et je ne me trouve plus d'accord avec eux. Voilà 3 nuits que je soulève ma tête pour m'assurer si on ne vient pas me chercher, et si je ne vois pas la face endormie de mon gardien, qui dort sur ses 2 oreilles avec une confiance entière en sa vertu et en la mienne. Je surprends l'œil écouteur et malcontent du soldat, qui rêve tout éveillé et qui, dans le clair-obscur de ce cachot, à peine éclairé par une misérable chandelle, en sueur se tracasse la tête, j'en suis sûr, par des fantasmagories dont il ne sait pas le nom. Quelquefois, il me prend envie d'en rire. Et puis, j'ai comme un étranglement qui m'arrête. Je ne ris pas. La nuit dernière, j'ai été sur le point de faire coucou aux soldats et de l'effrayer d'une manière ou d'une autre. Mais l'humanité m'a retenu et encore une autre idée. Le soldat, vilain joueur, pouvait me plonger sa baïonnette dans le ventre. C'est peut-être sa consigne, alors mon but était manqué. Je dis bon but, et dans ces instants où la voix secrète m'éveille et m'entretient, si je répète ce mot, je me surprends à me mordre la lèvre jusqu'à me faire souffrir. Le but que j'attendais de l'idée d'écrire ces mémoires, je le sens moins. Ce plaisir de m'expliquer à loisir avec détail s'affaiblit. Il est temps que cela finisse. J'ai beau m'irriter contre la société, m'exhorter à lutter, moi, son prisonnier, contre la pensée de son couteau. La voix secrète, quoi que j'en aie, me simplifie mes propres impressions, mes motifs et ma colère. Et simplifié, je me trouve peu de choses. Tout le monde en est là, c'est vrai, mais rarement on se trouve en position d'apprécier comme moi où ce peu de choses peut conduire. Ce qui serait capable de m'effrayer, c'est la manière nouvelle dont j'envisage la faculté poétique que je mets si facilement en œuvre. D'abord, je me suis amusé avec cette faculté, comme on s'amuse en se livrant à l'exercice le moins intelligent. Les sentiments exprimés par les vers ne m'occupaient que comme construction de phrases. En moi, rien d'intime. C'était une affaire de tête et de plume, sans aller plus loin. Et comme je le disais dernièrement à un monsieur que l'on m'a dit être auteur et qui, après m'avoir lu mes vers avec une grande émotion, s'étonnait de leur moelleuse douceur. L'imagination, la poésie divinise un sujet. On y met le ton convenable, mais la plume tombe des mains. Il n'en reste rien. Et voilà que cette nécessité de diviniser une idée ou un sujet pour le rendre harmonieux me préoccupe. Je veux l'analyser, toujours la voix secrète. Depuis quelques jours, je reconnais une grande différence en moi devant les visiteurs qui m'épient, me traduisent à leur façon, c'est-à-dire de 100 000 façons. Les plus grotesques, les plus gigantesques, les plus rouges sont les meilleurs. Et moi, devant moi-même, je tranche tantôt du bon garçon, tantôt du scélérat, sans souci devant le monde. J'ai même des petits accès de mélancolie qui me divertissent. Et maintenant, la tête sur le traversin, je me demande ce que ça signifie. Je cherche où j'en suis. Mon allure du jour me fait pitié. Je sens une case dans ma tête qui sonne creux. Oh, cela ne me fait pas peur, non, mais cela me fait froid. Cependant, le poil est bien chaud. Encore la voix secrète. Par exemple, il faut en convenir, cette question religieuse qui semble préoccuper tant de monde, à la manière dont on s'obstine à me la présenter, n'excite réellement aucun retour sur moi-même. Avec elle, je reste l'asseneur tout entier. Ainsi, ils m'ont envoyé un abbé, elle, à réputation. J'y mettais de la bonne volonté, je me sentais disposé à m'assouplir. Point. Voilà un abbé qui me parle de Massillon, de Bossuet, et qui veut qu'au point où j'en suis, je fasse de ce qu'il appelle mon salut une question de doctrine. Catholique ou damné, oh, je m'abstiens de choisir. Ils peuvent se vanter d'avoir hier soir et 2 heures durant placé cruellement ma tête sous le boisseau. Un phrénologiste, monsieur Dumoustier, m'a été amené et m'a modelé. Ma figure devenait pourpre, S'il m'eût fallu avouer tout haut les sensations chaudes, tièdes et froides qui me couraient le long de la colonne vertébrale pendant la préparation de l'épreuve du moulage. Mais, comme je sais garder la consigne que je me suis donnée, rien n'apparut. Les réels apprêts pour l'échafaud, jusqu'à me raser les cheveux, le froid du rasoir sur la nuque m'a fait courir un million de fourmis aux pattes froides sur la chair. Avec un peu plus d'humanité, et ce médecin me tirait de peine et abrégeait la besogne des autres. Il est vrai que le plâtre ne m'aurait plus représenté que mort, et qu'il faut au moins, pour la curiosité de la science, deux copies, une avant et l'autre après. Ensuite, j'ai dû, couché sur mon lit, renverser ma tête dans un demi-cercle en cuivre qui m'a pris au cou, comme le fera la lucarne de la guillotine. Oh, j'ai compris tout cela. Est venu le plâtre. Petit à petit, ma face s'est trouvée couverte. Pour conserver ma respiration, deux petits tubes. Et c'est en ce moment que j'ai apprécié ce que la pensée de l'homme peut franchir de murailles et d'espace, peut enfanter les choses diverses, avec la rapidité d'un éclair et d'un tourbillon. Fantasmagorie. J'avais les yeux fermés. Il y eut un instant où je voyais mille lumières, une immense clarté. On m'exécutait au flambeau. Dans un autre instant, je plongeais dans un gouffre tout obscur, tout humide. Et ce diable de médecin qui me tourmentait la tête m'apparaissait comme l'exécuteur lui-même. J'attendais le coup. Oh, la fascination fut si forte que je voulus faire résistance. Je m'agitais afin de briser le masque de plâtre et de m'échapper de dessous. L'incertitude d'y réussir me causait la vive attente d'échapper au bourreau. Le médecin m'a crié « Patience, ce ne sera pas long. Un peu de complaisance. » J'ai repris mon calme en me rendant compte. Le fils de M. Samson ne parle jamais aux suppliciés. Puis, si alerte que fût le médecin, s'il eût été l'exécuteur, il aurait bien plus vite fait. Alors, je me suis arrangé dans une autre hallucination. Ma respiration était évidemment fort gênée. Avec un coup de collier bien déterminé de ma volonté, je pouvais m'intercepter l'air, m'étouffer. Il m'aurait cru patient et docile, j'eusse été mort. Sans autre avis, à peine une convulsion dans les jambes qu'ils auraient prise pour une impatience nerveuse. Mort en ami de la science et de la main d'un savant, de préférence à celle du bourreau. J'y gagnais. Bon, mon exécution devenait originale, on aurait dû parler. Et je me suis vu mort. Le moulage terminé, on dépeçait le blâtre, on me découvrait le visage, on me regardait, on m'appelait. Néant, plus de la snère. D'abord des cris, des hélas, comme au trépas d'un bon parent, puis une grande colère contre le pauvre médecin qui, malgré sa profession, n'avait pas caractère pour me tuer. On reprenait les lamentations, et cela tout bonnement, parce que j'étais mort prudemment et tout entier sur un lit. Le procès-verbal dressé, on m'emportait, la tête sur les épaules. Voilà le piquant, on me portait un clamart au complet, comme un honnête homme. La tentation d'éteindre moi-même le flambeau m'est venue. J'ai, l'espace de 5 minutes, retenu mon haleine. Bon, serait venu à bout, mais l'imagination, cette folle de la maison, m'a brusquement chassé de cette riante perspective. J'ai vu Avril ouvrant bien grand ses yeux de chat, puis entendant une rouge colère parce que Monsieur Lassner le laissait partir tout seul et ne mêlait pas son sang au sien sur le trimard. Bon, me serait encore bien arrangé de la fureur et de la stupéfaction d'Avril. Elle m'aurait même amusé un instant. Mais ce bon M, à qui je dois des soins si complaisant et qui avait facilité ma mort. Il restait au bruit avec la justice, il perdait sa place, il a de la famille. Et encore, ce pauvre médecin, harcelé par l'inquisition judiciaire, accusé presque d'assassinat avec préméditation, tout au moins accusé d'ignorance, de maladresse, c'était une réputation perdue. Tout cela m'a désenchanté, je me suis décidé à vivre. Monsieur Dumoustier a tiré le fil, a fait la section du plâtre, a dépecé les contours, puis m'a découvert la face et a enlevé la contre-épreuve de moi-même, avec précaution, en deux quartiers. Le bourreau n'en fera qu'un seul morceau. Le bon docteur était transporté d'aise. L'opération avait réussi. Il m'a serré les mains. Oh, qu'aurait-il fait s'il se fût douté de l'obligation qu'il m'avait? Il faut en convenir, après m'être résigné à vivre, j'eus une folle joie en revoyant la petite chandelle, lustre de mon cachot et à la clarté, tous ceux que j'avais vus avant se placer ma tête sous l'estouffoir. En y réfléchissant, j'ai peur que cette joie n'ait été compromise. Le médecin s'est fait barbier. Il m'a déblâtré les cheveux avec du jaune d'œuf, m'a peigné, coiffé, et tandis qu'il rassemblait toutes ses bucoliques, je me suis approché de mon lit sur lequel les deux parts de ma face avaient été déposées. Tout à coup, une pensée malveillante, mais lucide, m'est venue. Si leur science phrénologique ne ment pas, me suis-je dit, voilà un plâtre qui va contredire beaucoup de mes paroles, qui va ruiner mon système, qui va dénoncer mes sensations secrètes et m'accuser de mensonge. J'ai pris le plâtre et j'allais le briser, mais le médecin est venu à moi et m'a dit en me frappant sur l'épaule, « Bon, monsieur Lacenaire, comme il y a mis de ma patience, j'ai épargné ma perfide ressemblance pour ne pas détromper le médecin. Soit que j'eusse vu trop de choses pendant cette séance et que ces spectacles bizarres eussent fatigué mon cerveau, j'ai mal dormi pendant la nuit qui a suivi. Mal, bien mal, car j'ai rêvassé tout éveillé. Tellement éveillé qu'avec une préméditation pleine de sagacité, je me suis soumis à une épreuve d'avant-goût, de nature à tuer un homme sans y employer le tirepoix ni le triangle. Le moulage m'avait tourné l'esprit vers la guillotine. Voyons, me suis-je dit, préparons-nous une répétition. J'ai lu dans je ne sais quel livre que les prisonniers du comité de salut public jouaient à l'échafaud dans leur prison. Ils figuraient avec des tables, des bancs, le plancher, la charpente, le bras de la charrette, la lucarne, la planchette à bascule, et tour à tour simulaient le bourreau et le supplicié. Aussi compromis qu'ils l'étaient alors, aussi assurés de ma mort qu'ils pouvaient l'être de la leur, plus assuré peut-être, je puis bien, sans trop de prétention, répéter l'acte de mon supplice. J'aurais même plus de courage à le faire que n'en avaient les prisonniers, car ils étaient plusieurs, ils s'en excitaient, ils s'agitaient, ils s'oubliaient. Moi, je suis seul et le corps dans une complète inaction, je vais agir et voir par la pensée. Procédé infiniment plus cruel, puisqu'il me permettra de sentir. Cela dit, j'ai cherché bravement mon point de départ. Bon, la délibération a été longue. Prendre le moment où l'on vient me chercher pour me transférer à Bicêtre, il y aura bien là une petite sensation, mais peu de choses, car le grand air, la voiture, les chaos, la certitude d'avoir toute une nuit à soi, décidément, c'est prendre la chose de trop loin. Bon, sans plus chercher, il est 1h du matin, je suis dans le cabanon de Bicêtre et c'est pour 8h. Il n'y a rien de tel que de savoir plonger tout de suite au fond de la question. C'est un avantage que la loi ne donne pas à ceux qu'elle condamne. Elle s'y prend avec une afféterie de simagrée qui faut autant de délais, et chaque délai autant d'agonie. Il faudrait que le meurtrier, arrêté à 6 heures du matin, fût jugé à 8, et qu'au moment où l'orateur du jury dit « la maison, la main sur son gilet », sur toutes les questions, oui, l'accusé est coupable. Pof, la tête tomba. Ce serait fort heureux pour l'accusé. Comme l'audience serait plus dramatique, il s'y trouverait plus de dames. Les avocats parleraient devant un plus séduisant auditoire. Le ministère public, stimulé par l'amour-propre, serait plus éloquent. Tout le monde y gagnerait. Enfin, il faut savoir prendre l'univers comme il est. Me voici dans mon cabanon. On m'a dit que M. Victor Hugo fait monter une grosse araignée sur le pied nu de son condamné. Bon, c'est possible, mais ne perdons pas notre temps aux enjolivements et ne plaisantons pas. Le cabanon est bien humide. J'ai froid. L'horloge vient de frapper un coup. Est-ce l'heure ou déjà la demi? Grave différence, j'en suis à me débattre contre les quarts d'heure. Quel diable de cri est-ce là? Une voix qui m'appelle, un gémissement? Je leur conseille à ceux qui s'ouvrent de se plaindre plus haut que moi. Mais non, ce cri est étrange. C'est la plainte d'une âme en peine. Oh, mais si que je suis, mais c'est une chouette qui cause là-bas dans la campagne. Ce cri me pénètre, me fait courir un froid sur l'épiderme, comme faisait un couteau frottant une assiette, au temps où je me servais de couteau et d'assiette. Cette chouette maudite bavarde qui vient me faire penser à elle, me semble qu'elle n'est pas loin de mon cabanon. Et pourtant, elle est dans la campagne. Elle est libre. Si peu d'espace entre elle et moi et tant d'insurmontables obstacles. Je vois d'ici où elle peut être. Sur les décombres d'une vieille carrière abandonnée à 40 pas du chemin de ronde. Et suivant la direction à l'ouest, je me trouve sur la route d'Orléans. Je me jette plus à droite, je traverse en biais Sceaux, Bièvre. Je vais. Oh, je me sens fatigué comme si j'eusse fait ce trajet. Cette paille neuve fait une criaillerie insupportable. Quand je pense que demain, à pareille heure, avril, l'animal, il dort, qu'un ennemi, il a peur. La peur intelligente veut du bruit, la peur de la brute veut le silence. Je voudrais bien savoir quelle mine ce coquin-là fera demain matin. Aura-t-il ce long rire stupide et féroce qui m'a bien souvent occupé physiologiquement en parlant? Ceci est une tournure de phrase de messieurs les savants. Honnête homme, assassin, savant, ignorant, au point où j'en suis, le bourreau à part, quelle différence entre eux? Je ne dis pas quant à leurs pensées intimes, mais quant à leur avenir. L'avenir, quel mot étrange! Qui en a inventé le sens? L'avenir, terme littéraire, insignifiant, pour ceux qui ont un lendemain, mais pas pour moi. Mon Dieu, mais quelle main m'a donc poussé sur ce mot, sur le seuil dont il est la porte? Dieu, me voici à genoux. Mes yeux sont fermés. Je descends en moi. Quel tas de sales idées, de sales choses, quel cloaque! Mais comment verrai-je Dieu au milieu de tout cela? J'ouvre mes yeux. L'obscurité est profonde. Mais si tout à coup une grande clarté venait à étinceler, ce serait Dieu qui me visiterait. Oh, quel bruit de cloche, de cris, de chants, quel bourdonnement! Oh non, cet amage-là n'a lieu que dans ma tête. Pauvre tête, demain elle sera sourde à ces bruits. Pouh, j'ai froid! Voilà comment il me prouve que la civilisation a aboli la torture. Oh, plus de tenailles, de chevalets, d'eau chaude, c'est vrai. Louis XVI, modeste en sa personne, supprima ce luxe. Mais il dut juger, la veille du 21 janvier, qu'il n'avait point aboli la plus cruelle des tortures, celle qui a ses tenailles dans le fort intérieur du condamné à mort. Rêvais-je? L'horloge a sonné 5 coups. 5 heures du matin. Miséricorde, dans 4 heures, moi qui me sens, qui me parle, je ne serai plus de ce monde. Plus de voix, plus d'yeux, plus d'oreilles, mais où serais-je? Si j'osais, je crierais, j'appellerais, je demanderais à vivre. Je ferai des révélations, je me ferai reconduire à Paris, à la conciergerie. Je vivais là, je voyais du monde, on craignait de me chagriner, on s'intéressait à moi. Quel bonheur de m'y revoir, ce serait renaître. Si je savais qu'en appelant « Père Martin, Père Martin », lâche que je suis, j'ai peur. Non, rien, Père Martin, rien. Je voulais m'assurer si vous aviez passé toute la nuit dans cette galerie. Oh, c'est fâcheux pour vous, il fait bien froid. Un mot de plus, et demain tout Paris aurait su que la Seigneur avait demandé sa grâce. Baste, je me poignarde 100 fois, je me fais plus de mal que ne m'en fera le bourreau. Comment, déjà? Est-ce que je me serais trompé d'heure? Ai-je dormi par hasard? Toutes ces figures me semblent affreuses à la lueur de ces sales lanternes. Mais on n'est pas d'enfantillage, marche au droit et sans fléchir. Oh, ce monsieur, c'est lui. Mais quelle épouvantable affinité s'établit entre cet être-là et moi. Je me suis souvent fait cette question qui me paraissait oiseuse. À qui ai-je adressé ma première parole en naissant? À qui adresserai-je mon dernier mot en mourant? Cette dernière partie de la question est répondue par la présence de cet homme. C'est lui qui surprendra mon dernier sentiment. Je vais le regarder bien en face, afin de me familiariser avec lui, et que sa main, lorsqu'il me touchera, ne me fasse bondir comme sous le fer rouge ou sous la griffe du tigre. Mais où est donc Avril? Ah, le voici. Butor, il a le jarret souple comme l'aurait un chat. Mais je ne m'y trompe pas, la peur le foie. Qu'il est laid, et ce fut là mon associé. Horrible liquidation. Eh bien, cette toilette est plus expressive que je ne me l'étais imaginée. Celle du moulage m'a fait souffrir. Celle-ci m'a fait vieillir. Je sens que mon nez est amaigri. Si la sensation eût duré 2 heures, mes cheveux seraient devenus blancs et on m'aurait emporté mort. S'il a assez aux jambes, aux bras, cette chemise déchirée, ce cou bien nu, afin d'offrir des facilités au couteau. Oh, ils disent que la torture est abolie. Est-ce fait? Oui, on lève l'écrou. L'Asner est libre. Il sort de prison et me voici dans la voiture. Je me sens les extrémités froides. J'ai un carillon dans la tête. Oh mon Dieu, quel tapage! Ce sont les roues. Mais où vais-je, juste ciel, où vais-je? Mais cela n'est pas possible, je ne vais pas si vite pour être tué. Un chaos qui brise l'équipage, une pierre qui m'ouvre le crâne. Mais mes idées tourbillonnent, je n'en peux retenir aucune et j'arriverai avant que de savoir de quoi il est question. Puis des étonnements, des cris de surprise et d'horreur. Fi donc du calme. Une idée, une seule, qui serve de canne à mes jambes, dont les os me semblent ramollis. De flambeaux à mon intelligence, où il fait un noir affreux. Ah! Je tiens mon idée, oui, et j'en suis content. Eh Dieu, qu'avais-je donc pensé? Ah, je me retrouve, c'est cela. Je vais voir en descendant de voiture un échafaud, une foule, un panier, quatre hommes qui me saisiront. L'un des quatre sera le bourreau. Le moyen de conserver son énergie à l'instant de cette horrible mise en scène. Mais cet homme a tranché la tête de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de la Gironde entière. Il a tué Vergniaud, il a tué Charlotte Corday, Madame Roland. Effaçons, par l'exécration et le repentir, le souvenir de mon ignoble existence et du sang que j'ai versé. Je suis un condamné politique. Qui me démentira? Je ne l'aurais dit à personne. C'est un compromis entre ce qui reste en moi d'idéaliste et la peur physique qui me tord les muscles et me presse les entrailles. Je rattache les débris de mon existence à une généreuse querelle. Je meurs pour un principe. L'exaltation du martyr me gagne, la spiritualité des belles morts me pénètre. Oh, que cette idée se maintienne nette et entière de l'escalier à la lucarne. Je ferai bonne contenance, je mourrai tranquille. La voiture s'arrête. Horreur, où suis-je? Voyons, du courage. Qui suis-je pour ce peuple? Lacenaire, l'infâme Lacenaire. Ah, le couteau! Comment est-ce que cette planche va basculer? Oh, quel bruit sur ma tête! C'est la lucarne qui se ferme, miséricorde! Un ressort crie, oh mon Dieu! Je laisse à juger dans quel état je suis sorti de cette représentation mentale. J'étais froid des pieds aux cheveux. Mon cou était engourdi par un douloureux torticolis. Une sueur glacée coulait sur mes joues. Au bruit imaginaire du ressort qui tient la corde du coutelard, je faillis crier. Ma poitrine a jeté un son plaintif. Le soldat, qui bâillait comme un bienheureux, a suspendu le cours de sa satisfaction. Et la bouche ouverte m'a regardé avec effarouchement. J'ai ri de bon cœur, d'autant que je revenais vivant de la guillotine. Bien décidément, quelques incidents près, et tous fort secondaires, ce sera moins effrayant que je ne le pensais. Toute la difficulté consiste à me maintenir dans une idéalité secourable. Que cela soit, et je n'aurais pas menti en leur assurant que je mourrais bravement. Oh, j'aurais bien le teint pâle, les jambes un peu avinées. Mais qu'est-ce que les jambes ont pareil à faire? La bête qui est sous l'homme. Je me rappelle ce colonel de cavalerie en position avec son régiment au milieu d'une lave de mitraille. L'empereur, passant au galop devant le front de cette troupe, y remarqua de l'émotion et des aliments rompus. « Eh bien, colonel, est-ce qu'on a peur ici ?»« Non, sire, ce sont les chevaux. »« Eh bien, s'ils s'avisent d'abuser ma démarche, je leur dirai, ce n'est pas moi qui fléchis, ce sont mes jambes. » Est-ce qu'il y aurait des pressentiments? Est-ce que la seconde vue serait permise? J'ai passé la nuit entière à regarder la mort. Il me semble maintenant qu'elle est dans mon cachot. Ce matin, les physionomies n'avaient rien d'extraordinaire. Ce soir, elles ont une teinte de Bicêtre, un reflet de guillotine. Mais non, elle m'aurait demandé de finir la pièce de verre que je lui adresse. Et puis, je ne le veux pas encore. Non, je vais réfléchir sur certaines questions. Cela ne peut pas être pour demain. C'est que l'hallucination de cette nuit m'a fatigué le cerveau. Je vois trouble. Demain, je me propose d'écrire à mon père. Cela me réconciliera avec moi-même. Bon, mais une lettre écrite avec le sang de ma conscience. Pauvre père. Je lui pardonne de m'avoir point aimé lorsqu'enfant j'étais encore innocent. Et pour ce qui a suivi, je lui demanderai de me pardonner à son tour. Voilà une pensée qui me rafraîchit le sang. Je dormirai bien cette nuit. Bonsoir, gardien. Bonsoir, factionnaire. Je dépose ma plume, mais demain je veux que la lettre à mon père sur l'acte de purification de ses mémoires. Je l'y transcrirai tout entière. Il était près de 9 heures du soir lorsque la sonnerie s'est couchée. À 10 heures, le directeur de la conciergerie est entré dans son cachot, l'a fait lever en lui disant « Eh bien, Lassner, je ne croyais pas que nous nous quitterions si tôt. Il faut vous habiller, on va vous transférer à Bicêtre. Mais allons, monsieur Lebel, allons, tant mieux que cela finisse. Je demande qu'une chose, c'est que ce soit pour demain. Voulez-vous me permettre d'écrire 3 lignes avant de sortir d'ici ?» Il s'est approché de la table et a écrit d'une main assurée les lignes qui suivent, les dernières qu'il ait écrites. 8 janvier 1836, à la conciergerie, 10 heures du soir. On vient me chercher pour Bicêtre. Demain, sans doute, ma tête tombera. Je suis forcé, malgré moi, d'interrompre ces mémoires que je confie aux soins de mon éditeur. Le procès complète les révélations. Adieu à tous les êtres qui m'ont aimé, et même à ceux qui me maudissent, ils en ont le droit. Et vous, qui lisez ces mémoires, où le sang suinte à chaque page, vous qui ne les lirez que quand le bourreau aura essuyé son triangle de fer, que j'aurai rougi, oh, gardez-moi quelque place dans votre souvenir. Adieu !